Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Le Shaker, l'agenda culturel et social de Studio Zef. On est ravis de vous retrouver et après cette petite pause de quelques semaines sur cette première quinzaine de septembre, je suis ravi de retrouver Clémentine. Salut Clémentine.
Salut Thomas.
Donc évidemment Le Shaker pour les nouveaux auditeurs et auditrices qui nous rejoindraient, c'est évidemment donc l'agenda culturel et social où on vous annonce quelques événements qui se passeront sur Blois et sur le département plus largement. Et puis nous recevons chaque semaine un invité en milieu d'émission pour parler d'un événement en particulier. Cette semaine, nous recevons Véronique et Pierre Gadomski qui sont... Véronique, bonjour.
Bonjour.
Et Pierre, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes Véronique, la présidente de l'association France Lafora, qui existe depuis 95 et qui œuvre en faveur des malades de Lafora. Donc il s'agit d'une maladie génétique ultra rare. On y reviendra donc en milieu d'émission. On commence tout de suite avec un parcours. Où est le design autour de toi ?
Oui, alors ce parcours, il se fait dans le cadre de la France Design Week, un événement national. Et pour cette édition 2023, Blois propose aux flâneurs urbains un parcours dans la ville pour redécouvrir l'espace public par le design. Ce parcours met en valeur des points d'intérêt design disséminés. Souvent négligés, les infrastructures urbaines sont pourtant conçues de manière pratique, accessible à tous et en harmonie avec leur environnement. Les designers contribuent à cet aspect en créant de véritable pépite pour les utilisateurs à découvrir. Des QR codes sont dessinés au sol et marquent un espace design remarquable. Au total, il y en a 10 à Blois. Et ces QR codes expliquent aux passants en quelques mots l'histoire du lieu à travers le prisme du design. Entre autres, à travers ces 10 sites, les escaliers Denis Papin, le restaurant universitaire et le magasin La Suite. Ces QR codes et les lieux sont à retrouver sur le site valesens.com. Voilà pour ce parcours disponible jusqu'à la fin de la semaine.
On continue avec le forum Sport Santé ce samedi. Aglopolis et la ville de Blois, le conseil départemental du Loir-et-Cher, la maison Sport Santé du Loir-et-Cher et Santé Escale 41 et tous leurs partenaires vous invitent au forum Sport Santé qui se tiendra au complexe Saint-Georges à Blois le samedi 30 septembre de 9h à 13h. Vous pourrez échanger, tester et découvrir de nouvelles pratiques. Les essais aussi de sport seront possibles. Donc l'entrée est libre et gratuite. C'est ouvert à tous et à toute stand de présentation et ateliers pratiques ludiques d'activités physiques adaptées.
On passe à la journée de samedi avec un ciné-rencontre au cinéma des Lobbies à 19h30 autour du film Dans le silence et dans le bruit. Dans le silence et dans le bruit est une fiction d'une heure écrite et réalisée en 2022 à la clinique de la Chênaie. Porté par Clément Roussier et Adrien Mossaz, le projet a été mené collectivement avec les pensionnaires et l'équipe soignante. Le synopsis est le suivant. Clémence et Romane se croisent parfois près de wagons abandonnés en lisière de forêt. Tous deux ont trouvé là un abri à la violence du monde. Tous deux y cherchent un nouveau point de départ. À 19h30, côté bar des Lobbies, les réalisateurs et participants du film seront présents et parleront de leur collaboration. Et ce sera l'occasion aussi de redécouvrir le travail du club thérapeutique de la clinique.
On fait un coucou à la clinique de la Chênaie et on en profite pour dire que la Chênaie est présente sur les antennes de Studio Zef en ce moment dans l'émission de la Roxette de Christophe avec la programmation du club de la Chênaie, donc l'espace culturel de la clinique. On continue avec une première pause musicale pour vous annoncer ce vendredi le concert de Manzilla à la maison de Bégon. Depuis les débuts de leur aventure musicale en 2021, les membres de Manzilla ont composé au studio de musique de la maison de Bégon. Il était donc symbolique pour eux de réaliser la sortie d'album là-bas. Manzilla donne vie à un savoureux mélange musical qui puise sa force dans ses inspirations culturelles variées, musique iranienne de tradition soufie, rythme du Maghreb et d'Afrique, et dans l'affirmation de la modernité des compositions. La fusion des styles musicaux proposés par le groupe donne la réplique à des textes en français, pétris de révolte bienveillante et de partage. L'album est sorti sur l'ensemble des plateformes de streaming. En première partie, à partir de 20h30, Najoy Belhadji, il raconte des histoires faites de multiples rivages, de mers balayées d'émotions sur scène, accompagné de sa guitare et de sa voix singulière. Et à 21h, donc, Manzilla présente son premier album concert-événement avec la participation exceptionnelle de Juliette Boulay, circassienne, de la compagnie Décousu, qui font des marionnettes que l'on connaît bien à Blois, Le Chant des Femmes, qui est un chœur de femmes, et Michel Druez, qui est scénographe. On s'écoute le morceau de Manzilla, Soyons Caméléon, issu de leur album récemment sorti. Et on se retrouve tout de suite avec nos invités.
Prenons juste un moment, la couleur des sentiments, instant d'éternité pour ne pas se jeter. Soyons caméléons de l'étrange, prenons la teinte. Dans ta peau, je me fonds, je me cache, je t'emprunte. Monsieur, deviens madame. Blanc, passe sur fond noir. Maître, lâche ton pouvoir. Riche, ne possède rien. Instruit de ton latin. Sûr de toi, invite le doute. Sédenteur, prends la route.
Vous êtes de retour sur Studio Zef, vous êtes dans le Shaker, l'agenda culturel de la station, et je suis donc avec Pierre et Véronique Gadomski. Véronique, vous êtes la présidente donc de l'association France Lafora, donc association, comme je le disais, qui œuvre en faveur des malades de Lafora. C'est une maladie génétique rare neurodégénérative qui se manifeste chez les enfants autour de 10-12 ans. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus? Et puis, on va évidemment parler du concert caritatif que vous organisez en fin de semaine.
Oui, tout à fait. Bien, écoutez, je suis présidente de cette association depuis janvier 2022, donc ça fait pas très longtemps, même si l'association existe depuis 1995. Elle a été créée par les parents d'un enfant atteint de la maladie, et au fur et à mesure des années, elle est passée par plusieurs autres présidents et bureaux. Et depuis 2014-2015, elle était plutôt inactive par manque de bénévoles. Je pense qu'après, il y a eu la crise de la Covid qui n'a pas arrangé les choses. Et on s'est décidé plutôt pendant cette période-là, puisque donc, je suis concernée complètement par la maladie. Mon fils aîné ayant été diagnostiqué en 2019, il avait 19 ans, après 7 années d'errance diagnostique. Donc on a repris effectivement cette association en vue de faire bouger les choses. On a trois missions principales, hein, c'est de fédérer les familles qui sont atteintes par ce diagnostic, donc pour qu'ils se sentent moins isolés, puisque le parcours est compliqué quand même après une annonce telle que celle-ci. On est là aussi pour faire connaître la maladie, sensibiliser le public les soignants, puisque c'est une maladie très peu connue, même au milieu des soignants. Et bien entendu, soutenir la recherche dans le financement d'un remède, puisque c'est notre seul espoir aujourd'hui.
Vous disiez, en préparant cette émission, qu'il y avait donc une poignée, en fait, vraiment de personnes touchées en France.
Oui, tout à fait. Alors, c'est heureux, quelque part, mais on se sent évidemment très seul, puisque jusqu'à août 2023 de cette année, donc, nous avions dénombré 5 cas Lafora en France. Et il y a eu une mise à jour de la base de données des maladies rares au mois de mai, qui est remontée sur le mois d'août. Et nous sommes à 12 cas aujourd'hui.
Ce qui reste donc évidemment extrêmement rare.
C'est très rare, exactement. La prévalence est moins d'un cas sur un million de personnes, donc c'est effectivement très rare.
Quels sont les symptômes, comment se manifeste l'apparition des premiers symptômes, des premières conséquences?
Alors, de manière générale, on va dire que ça apparaît. Alors, c'est génétique, donc ça veut dire que l'enfant à les mutations dès la naissance. Mais ça se manifeste autour du début de l'adolescence, donc vers 10-12 ans. Par des crises d'épilepsie. Voilà, donc ce sont des crises d'épilepsie qui sont traitées comme une crise d'épilepsie lambda pendant plusieurs années, et puis après on va se rendre compte que les médicaments qu'on a sont pas suffisants, donc on va avoir des myoclonies qui vont apparaître. Donc les myoclonies, ce sont des contractions brèves et brusques qu'on voit au niveau des bras, des jambes, puis au niveau du visage. Donc son intensité va s'accentuer avec le temps. Ça va handicaper lourdement les patients, hein, puisqu'ils vont tomber sans pouvoir se contrôler. Donc c'est pour ça qu'ils finissent très souvent dans un fauteuil, puis alités. Et au fil du temps, donc, des crises d'épilepsie vont être de plus en plus importantes. Donc nous, pour le cas de notre fils, c'est passé d'une crise d'épilepsie idiopathique à une crise à des épilepsies myocloniques. Myoclonie juvénile. Et après, donc, les médicaments ont été instaurés. Et bon, là, comme on a vu qu'il y avait des détériorations cognitives et psychomoteurs, il y a eu un test génétique de fait et on a eu le résultat 9 mois après, et c'était Lafora.
Vous disiez que sur le cas de votre fils, il y avait eu des errances donc de diagnostic.
Oui.
Comment ils sont arrivés qu'est-ce qu'on a diagnostiqué pendant ces 7 premières années? Juste une épilepsie
Alors générale, on a eu 3 stades en fait. Ouais. On a eu la crise, enfin l'épilepsie idiopathique, on a eu la juvénile, alors j'ai oublié le nom, l'épilepsie myoclonique juvénile. Mmh. Et au fur et à mesure du temps, comme les symptômes arrivaient et qu'on n'arrivait pas à les contrer avec les médicaments censés le faire, c'est le test génétique qui a le neurologue. Voilà, faut avoir le neurologue qui permet de faire ça et qui est soucieux d'éliminer peut-être certaines causes. Mmh. Donc il a voulu éliminer les épilepsies myocloniques progressives et en fait il a tapé en plein dedans.
Et on peut supposer, vous m'arrêtez si je me trompe, que ces errances médicales de diagnostic sont dues au fait que la maladie est extrêmement rare et donc peu connue même du monde hospitalier.
Exactement.
Vous le disiez aussi,
Oui, il n'y a pas de... Alors ce qui peut aider les spécialistes dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle des PNDS, hein, qui sont des protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Mm-hmm. Il n'y en a pas aujourd'hui pour les épilepsies myocloniques progressives. Ça va être fait puisque ça fait partie aussi de nos missions de demander ce type de documentation pour que effectivement nos spécialistes puissent s'appuyer dessus et aller plus vite dans le diagnostic d'un Lafora.
Quel est le champ d'action général de l'association? Donc médiatiser, j'imagine, la maladie, et puis faire connaître, et j'imagine débloquer des fonds, faire avancer la recherche.
Exactement. Donc ce qu'on veut, c'est évidemment se retrouver entre familles et se dire voilà, comment on peut avancer vite pour pas avoir tous, chacun dans notre coin, à devoir passer des semaines, des mois à trouver les bons plans pour nos enfants, ce qu'il y a de mieux pour eux, parce qu'on a quand même tout le côté administratif, il y a des dossiers MDPH, il y a des mises en œuvre à domicile aussi, l'HAD, des structures de soutien aux personnes en perte d'autonomie ou handicapées, voilà, selon, il y a le matériel. Après, il y a effectivement sensibiliser le public, les soignants, puisque comme c'est une maladie rare, il faut se rendre compte effectivement qu'on a besoin de soutien et de déployer des choses pour la rendre un peu plus visible. Et puis principalement donc le soutien à la recherche, puisque aujourd'hui c'est eux qui détiennent le remède miracle ou qui peuvent travailler sur le sujet. Et donc, pour faire des recherches approfondies, il faut des fonds. Et les fonds, aujourd'hui, pour ce type de maladie, qui est plutôt une maladie orpheline, c'est principalement des collectes de dons privés.
Est-ce que la maladie rentre dans le champ des campagnes de dons type Téléthon, parce que le Téléthon est pour les maladies génétiques notamment? Est-ce que les travaux autour du Téléthon, les actions autour du Téléthon servent aussi à la recherche sur la maladie de la Fora?
Oui, il y a une relation, puisque les associations de maladies rares sont fédérées quelque part par l'Alliance Maladies Rares. Donc, on est adhérent de l'Alliance Maladies Rares. Et l'Alliance Maladies Rares est soutenue financièrement par la FM Téléthon.
Okay.
Tout comme la Fondation Maladies Rares, qui peut aussi nous aider dans la mise en place de projets de recherche quand on a trouvé les moyens d'avoir... projet de recherche.
Je reviens juste là-dessus, c'est qu'on n'est pas directement impacté par les dons que vous faites au Téléthon. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous, on ne recevra rien du tout du Téléthon.
D'accord.
On fait partie des organismes qui sont soutenus par le Téléthon, mais on n'est pas directement... si on a demain, effectivement, une recherche qui sortirait, on pourrait être aidé via le Téléthon, mais aujourd'hui, on n'a rien.
Très bien. Comment a été perçu, accepté le diagnostic ici en Loire-et-Cher, puisque vous êtes là, vu qu'il n'y a qu'une poignée de malades en France, comment a été perçu et intégré au sein du parcours médical, j'imagine, à l'hôpital de Blois, dans les structures d'accueil ici, en local?
Alors, nous, on n'a pas été... Robin est suivi sur Bretonneau directement, pas sur Blois.
Ouais.
Voilà. Donc, en fait, le diagnostic nous a été annoncé avec le neurologue et le psychologue, on a eu droit à un conseil génétique, puisque c'est la transmission de la maladie est très particulière. Pourquoi elle est très rare, c'est que on dit que c'est une transmission sur le mode autosomique récessif. On a globalement le corps est fait de 21 000 gènes, la moitié est transmise par le papa, l'autre moitié par la maman. Et en fait, il est très rare que le papa et la maman aient exactement le même gène altéré. Donc déjà, ça c'est la première étape. Pour que l'enfant ait la maladie, il faut que ses deux parents aient exactement le même gène altéré. Et une fois que ça s'est réuni, il a une chance sur quatre du coup d'avoir la maladie. Donc, ça a été le cas de Robin, pas de mon autre fils. Parce qu'il a un frère qui aurait pu être aussi impacté. C'est pour ça qu'une fois qu'on a le combo parent qui a exactement le même gène altéré, on a beaucoup de familles fratries qui sont impactées, finalement.
OK.
Voilà. Et donc, après, le parcours, effectivement, c'est le neurologue. À partir du moment où on a une relation de confiance avec le neurologue, c'est très important. Donc, lui, il fait ses recherches, se documente pour nous donner les traitements les plus appropriés. Puisqu'on n'est pas avec un médicament, on peut aller jusqu'à 5 traitements anti-épileptiques et anti-myocloniques simultanés.
Très bien. J'ai vu dans la présentation que vous m'avez envoyée pour votre venue qu'il y avait quand même un réseau plutôt bien structuré au niveau international avec des chercheurs en Europe et aux États-Unis. Comment ça se passe le travail de ce réseau?
Alors là, en fait, on a une grosse fondation qui est aux États-Unis qui s'appelle Chelsea's Hope, qui chapeaute globalement toutes les associations du monde, puisque c'est elle qui est plutôt moteur sur les informations, les approches auprès des chercheurs, qui de toute façon, la plupart du temps, se tiennent aux États-Unis, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque notre principal professeur est le docteur Minassian, qui est le premier à avoir trouvé, qui est celui qui a trouvé le premier gène concerné dans cette maladie en 1998. On l'avait rencontré en 2019, en fait, sur Paris, puisqu'il était en séminaire. Et donc, on avait eu un bon échange avec lui sur comment lui voyait les choses. Donc, il nous avait expliqué qu'il y avait un essai prometteur qui arrivait sur 2021. Donc, on était en 2019, pour rappeler, donc il fallait attendre 2 ans. Comment ils voyaient les interactions avec les familles, les associations. Donc, ça nous avait déjà bien fait réfléchir à l'époque. Et c'était sans compter, effectivement, l'arrivée de la Covid qui a un petit peu tout cassé, tout bloqué. Donc, l'essai clinique prometteur, finalement, a été...
Abandonné.
Pas abandonné, il a été d'abord décalé sur 2022. Et c'est début 2022, au moment où on a repris l'association avec mon époux, où on a appris qu'effectivement, le test, les essais, le laboratoire, abandonné et tout pour une question de rentabilité. Donc ça a été un peu la douche froide à ce moment-là. Et puis, faut se remettre en selle. On a essayé de conserver, de mettre en place, nous, en tous les cas, les passerelles qu'on avait avec les autres associations. Mais on est tous dans l'attente de cet essai, puisqu'il n'est pas perdu. Le package existe toujours. Il faut juste trouver un repreneur pour la modique somme de 10 millions de dollars. Voilà. En attendant, on a des petites pistes, hein, des molécules qui existent, qui sont sorties, mais qui est difficile d'avoir accès, puisqu'il y a une législation française qui ne nous permet pas d'avoir des essais compassionnels sur des molécules qui ne sont pas autorisées en France. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'on mette des choses en place avec nos structures de santé. On a des centres de référence qui nous permettent de travailler sur le sujet. Et il faut qu'on ait les scientifiques qui sont suffisamment disponibles pour nous, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc on est beaucoup dans l'attente, en fait.
Eh bien, on suppose qu'il n'y aura pas 10 millions de dollars qui arriveront dans les caisses de l'association pour ce samedi, mais on va quand même parler du concert que vous organisez, qui a pour but, évidemment, donc, de récolter des fonds pour la recherche. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ce concert de ce vendredi soir ?
Samedi soir, oui, samedi soir. On ouvre les portes à 19h, donc c'est un concert caritatif qui est avec un groupe qui s'appelle Nos Parasites, qui fait des reprises pop-rock, qui s'est gentiment popoté de nous faire ce concert gracieusement. Donc la totalité des fonds qui vont être récoltés, ce sera pour l'association.
Effectivement.
Que dire ?
On vous attend nombreux.
Bah oui, évidemment, on espère qu'il y aura du monde. Donc c'est salle Beauce sur Blois. Ouais,
rue du Pré.
Rue du Pré.
Voilà, en Vienne. C'est en Vienne, exactement.
En Vienne,
on a eu l'autorisation d'ouvrir le parking du Parc des Expos pour l'occasion. Comme ça, on aura de quoi garer les nombreuses voitures.
Voilà, si.
Et voilà, donc le concert en lui-même commencera à 20h30 et il y a buvette et restauration sur place.
On rappelle donc que les fonds récoltés, donc l'entrée est à 10€ tarif fixe et c'est gratuit pour les moins de 10 ans et donc que tout l'argent récolté ira à la recherche.
Exactement.
On vous souhaite donc un bon concert, une bonne organisation, bon courage pour la suite.
Merci.
On va écouter un morceau qui sera peut-être repris par le groupe Nos Parasites. On vous remercie d'être venu. On poursuit cet agenda avec Clémentine, un morceau.
Avec Pressure de Muse.
Merci, à tout de suite.
See no solution or exit out. I'm grinding it out. No one can see. The impression's growing exponentially. I'm trying to keep up to speed with you. Your lane changing is absolutely me. I'm hitting the ground and I'm sprinting. I'm falling behind. Won't you look out? We'll be right back.
Vous êtes de retour sur le Shaker de Studio Zef, l'agenda culturel et social de la station. On continue après donc cette pause musicale. On vient d'écouter Muse, qui fait partie des groupes repris donc par le groupe No Parasites lors du concert de ce samedi, le 30 septembre, à la salle Beauce, 1 rue du Pré à Blois, dans le cadre de la recherche donc pour l'association France Lafora. Clémentine, on continue donc cet agenda.
On continue, oui, ce Shaker avec un événement qui a lieu tout le week-end au château de Cheverny, les fêtes vénitiennes. Le week-end vénitien est une invitation au voyage. Les visiteurs sont transportés dans l'atmosphère magique du carnaval de Venise. À la nuit tombée, imaginez le château éclairé, un concert lyrique et une centaine de Vénitiens déambulant dans le parc en costume. Le dépaysement est total et c'est également l'occasion d'explorer le domaine de Cheverny sous les étoiles. Dès 19h, pique-nique géant près de la pièce d'eau et possibilité de visiter le château. De 20h à 21h15, un concert lyrique La Dolce Vita par le duo des Fleurs avec les sopranos Geneviève Aymonet et Esther Pereira et Inès Bûcher au piano. Le programme fera la part belle au répertoire italien avec du Vivaldi, Verdi, Bellini et Rossini. À partir de 21h, déambulation des Vénitiens en costume et à 22h, un feu d'artifice dans le parc du château. Les billets sont en vente uniquement sur place le jour même, comptez 30€ en tarif plein.
On poursuit avec un concert de classique, toujours un dimanche 1er octobre à 17h à la cathédrale Saint-Louis à Blois. Requiem de Mozart. Ce Requiem est une œuvre phare de la musique classique, une des œuvres religieuses les plus célèbres auprès du grand public. La dernière œuvre du compositeur, fortement entourée de mystères. Ce Requiem sera interprété par l'ensemble vocal Alingavia et le tarif est de 18€. C'est donc dimanche à 17h à la cathédrale Saint-Louis.
Et encore ce dimanche dès 9h30, un événement qui lie magie avec Brocante, Abracadabroc, deuxième édition au Carroir à la chaussée Saint-Victor. Après le succès de la première édition, les Amigiciens vous donnent rendez-vous pour la deuxième édition dans une salle festive.
Alors tu n'es pas dyslexique, hein, c'est bien le nom du spectacle.
Ok, avec une cinquantaine de tables et toujours de nombreuses surprises. Cet événement regroupe un salon des créateurs, des magiciens fabricants des tours de magie, ainsi qu'un vide tiroir magique afin de se séparer des nombreux tours inutilisés par les magiciens, mais permettant une seconde vie à tout ce matériel. Et cette année, la collection privée de Bernard Darber, qui nous a quittés en 2020, sera mise en vente.
On poursuit avec Tous en forêt, c'est le nom de cette opération organisée par l'Office National des Forêts, l'ONF, la célèbre ONF. Les forestiers et l'ensemble donc des personnels ONF Val-de-Loire vous invitent ce dimanche 27 septembre à 14h à venir les rencontrer dans les forêts domaniales d'Orléans, Blois, Chinon et Châteauneuf en Thymerais. Et c'est gratuit et sans inscription et ces rendez-vous s'adressent à tous les publics. Pour y participer, c'est très simple, il suffit de se rendre sur le point de rencontre et donc pour Blois, c'est la forêt donc évidemment domaniale de Blois. Le rendez-vous est à 14h donc ce mercredi 27 septembre au carrefour Valentine de Milan sur la commune de Valencis. Autour d'une visite commentée, les forestiers répondront aux questions posées sur le changement climatique et son impact sur les forêts, la gestion forestière, la biodiversité, les coupes d'arbres, les missions de l'office, etc.
Et on termine ce Shaker avec un événement musical, le concert de Marie-Christine Tiercelin, un concert piano, guitare, voix et en espagnol à la Galerie Wilson ce samedi 30 septembre à 19h30. Marie-Christine Tiercelin est une chanteuse locale qui nous propose un florilège de chansons hispaniques. C'est à 10€ et la réservation est obligatoire sur le site artistesduloiretcher.fr.
On termine cet agenda en musique comme d'habitude. Alors c'est complet, on ne vous fait pas le topo de l'animation, mais donc gros événement au château de Blois ce vendredi. Je crois que c'est vendredi.
Je crois.
On n'a pas l'information puisque voilà, de toute façon, il n'y a plus de place. On se quitte avec Michael Canitro qui donc est l'artiste qui va vous proposer cette expérience monumentale au château de Blois, donc mise en lumière pyrotechnique et électronique, donc avec ce DJ célèbre qui s'est fait une spécialité de faire des concerts comme ça assez spectaculaires sur les châteaux de France et de Navarre. On se quitte donc avec un morceau de Michael Canitro et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau Shaker. Salut Clémentine.
Bonne semaine tout le monde.